Monnaie libre. Dans cet épisode, nous recevons le fondateur du PLD, Parti libéral démocrate, Aurélien Véron. Bonjour Aurélien.
Bonjour Stéphane.
Alors, on va rappeler un peu ton parcours. Tu es engagé politiquement depuis pas mal d'années maintenant, puisque tu as contribué au fondement d'un parti libéral qui s'appelait Alternative Libérale avant de fonder le PLD.
Absolument, et même avant Alternative Libérale, à Liberté Chérie, qui était une association combattante, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'est développée partout en France et même en Belgique. Et cette association Liberté Chérie s'est fait connaître en 2003 en organisant une grande manifestation à Paris contre les grèves. À l'époque, Fillon, François Fillon tentait de faire passer une loi sur les retraites. Les syndicats français, toujours aussi psychorigides, avaient commencé à bloquer le pays. Et Liberté Chérie s'était saisie du sujet et demandait à ce qu'on puisse aller de l'avant, avancer et faire un peu le ménage dans nos archaïsmes d'après-guerre.
D'accord, à noter d'ailleurs pour Liberté Chérie, que je connais un petit peu, parce qu'il y a, toujours, je crois, sur Internet, un petit site qui s'appelait Salaire Complet, qui a été fait par Liberté Chérie, où on peut voir, en fait, dans toute la monnaie qui transite entre l'employeur, ou qui est censée transiter entre l'employeur et l'employé, tout ce qui part ailleurs, en fait.
Exactement, on a fait un jeu qu'ils appelaient Monopole Public, on a fait des manifestations, et effectivement, ce site, salairecomplet.com, salaire complet, montre que quand un employeur paye un salarié, enfin consacre une somme d'argent à un employé, en fait plus de la moitié part en charges sociales, puis en impôts sur le revenu et en diverses taxes. Et qu'en fait le salarié ne récupère qu'une infime partie de la valeur de son travail.
Alors maintenant on va revenir à ton parcours avant de parler de libéralisme un peu plus généralement. Donc fondateur aussi, donc après Liberté Chérie, fondateur d'Alternative Libérale, cofondateur. Et puis maintenant donc, le Parti libéral-démocrate qui est maintenant bien installé. Mieux que l'Alternative Libérale, puisque l'Alternative Libérale, on peut dire que ça n'existe plus vraiment, enfin c'est un courant, mais c'est plus vraiment un parti, alors que le Parti libéral-démocrate se développe et on peut voir que tu as une grande persévérance dans ton parcours de ce côté-là.
Alternative Libérale existe toujours, c'est une association, on a de bonnes relations avec elle, ça se passe bien. Nous, Alternative Libérale n'est plus un parti politique, donc ne présente plus de candidats. Nous avons présenté donc 70 candidats sous nos couleurs en législative, dont une trentaine qui étaient des candidats purement PLD, et puis une quarantaine de candidats qui étaient de diverses origines, du Modem à l'UMP, Nouveau Centre, mais qui voulaient porter l'étiquette libérale, parce qu'encore une fois, en France, il y a une grande attente, contrairement à ce qu'un certain milieu journalistique laisse courir, une bonne partie des Français a une sensibilité libérale. Et donc je crois qu'il est important aujourd'hui qu'un parti représente ses idées, défende des candidats, défende un projet pour le pays, et puis... dans l'actualité, il y a tous les jours de matière à attaquer, à répondre, à proposer, parce que ni à droite ni à gauche, on ne trouve de propositions réellement libérales.
Donc tu cautionnes un peu tout ce qui se dit actuellement beaucoup sur Internet, qui est que finalement notre démocratie est un peu malade et que les grands partis finalement monopolisent un pouvoir mais ne représentent pas vraiment les grands courants d'idées qui traversent la société.
Alors, l'économie française est malade, la vie sociale française est malade, et la vie politique est aussi malade. Ce que nous constatons, c'est que la vie politique s'est beaucoup verrouillée elle-même, et comme c'est elle qui vote les lois, qui les décide et qui les met en œuvre, on sent une sorte d'entente entre l'UMP et l'EPS sur des blocages qui permettent le cumul des mandats, le renouvellement infini des mandats, on voit des élus qui sont à leur 5e, 6e mandat, l'absence de retraite, des retraites dorées extraordinaires, des conditions de travail incroyables, une opacité totale, et puis des financements publics de la vie politique qui font qu'une fois qu'on est soit l'UMP, soit l'OPS, tout est payé par le contribuable. Alors que des petits partis comme les Verts, comme le Front National, dont je ne respecte ni pour l'un ni pour l'autre les idées, eux se débrouillent au départ avec leurs propres ressources, ce qui est tout à fait naturel. Mais ça crée une concurrence déloyale et donc un verrouillage, parce que quand les grands partis ne payent rien de leurs dépenses et que les petits partis doivent payer l'intégralité de leurs dépenses, évidemment que le départ de la course n'est pas le même.
Alors c'est remarquable ce que tu viens de dire, parce que ça fait une excellente transition avec l'émission précédente, puisqu'on recevait Étienne Chouard, qui notamment expliquait le rôle de l'argent dans la politique, puisque si effectivement tu viens de dire que le financement étatique, en gros des grands partis déjà en place, leur donne un avantage supplémentaire par rapport à ceux qui les petits partis qui ont en fait. Donc l'argent joue un rôle politique, par le financement public, par ce biais-là, par cette concurrence déloyale que tu dis clairement comme concurrence déloyale. Alors qu'est-ce que tu penses, toi, de la proposition d'Étienne Chouard qui est de dire qu'en fait, qui est de ça fera une transition et après on parlera du libéralisme plus généralement, qui est de dire que le bug en fait qui permet l'état des choses aujourd'hui, c'est le fait que ce sont les élus eux-mêmes qui écrivent la loi fondamentale qui est censée les encadrer, c'est-à-dire qui peuvent modifier ou pas la Constitution. Alors qu'en fait, la Constitution devrait être donc écrite par les citoyens et donc in fine par des gens qui sont non élus et ils proposent une idée qui a déjà été employée dans le passé. C'est une assemblée permanente qui gère la Constitution et qui soit tirée au sort et donc qui sera de facto indépendante des élus eux-mêmes.
Je ne suis pas tout à fait en accord avec cette approche. Je crois qu'il faut bien distinguer les droits fondamentaux et la démocratie. La démocratie, c'est formidable, mais c'est très encombrant. On voit bien les limites de la démocratie, les menaces de la démocratie, donc quand les situations sont difficiles. La crise des années 20 en Allemagne a débouché sur la montée du nazisme. C'est un cliché de le rappeler ça, mais il ne faut quand même pas oublier que la majorité n'a pas toujours raison et que le fait majoritaire n'est pas la vérité. La Constitution est là pour protéger des droits qui sont considérés aujourd'hui comme universels. Je ne vois pas le rapport entre un processus démocratique et une Constitution. Une Constitution, ce sont des textes presque sacrés qui déclarent, qui rappellent les droits fondamentaux de l'individu. Et cette Constitution doit très peu bouger. Il se trouve qu'en France, elle bouge constamment, beaucoup plus que la Constitution américaine, par exemple, qui depuis deux siècles est relativement stable, avec des amendements, des petites évolutions. Mais le fondement de la démocratie américaine n'a pas bougé. La démocratie anglaise, qui n'a pas de Constitution, est extrêmement stable. La nôtre bouge constamment sa constitution. Et je crois que l'entrée de la démocratie dans la constitution, finalement, pollue ses droits. Et peut-être qu'en France, on a oublié la notion de droit fondamental. Les droits fondamentaux de l'homme, du citoyen, les droits de 89, pas de 92, ces droits-là ont tendance à être piétinés régulièrement, à être modifiés, arrangés, tronqués. Et l'intérêt, encore une fois, de la majorité n'est pas toujours l'intérêt de l'individu, des minorités. Et l'intérêt de la majorité n'est pas toujours clairvoyant, n'est pas toujours juste. Voilà, donc attention à bien distinguer le droit fondamental, les droits naturels de l'individu, et puis la démocratie.
Alors, on va creuser un peu plus cette idée-là, parce qu'on voit bien que ça a un rôle très, très important. Étienne Joire te répondra, oui d'accord, mais alors, le problème de ce texte fondamental qui doit peu bouger, on est d'accord là-dessus, il doit être bien écrit, etc. Mais qui l'écrit alors dans ce cas-là? Parce que s'il faut à chaque fois faire une révolution comme en 1789, pour les faire valoir d'une façon ou d'une autre, on voit bien que là, on n'est pas vraiment dans quelque chose qui est apaisant. Donc, qui a le droit de modifier cette constitution si ce n'est pas la majorité, si ce n'est pas l'élection? Étienne Chouard propose le tirage au sort qui, lui, finalement, brise le lien avec l'élection, donc évite le lien incestueux entre constitution et élu, puisque c'est les élus aujourd'hui qui modifient la constitution, c'est pas le peuple n'a pas le droit de faire même des propositions. Donc, qui a le droit de toucher à ce texte? Parce que quand même, il est durable, même il est stable à long terme, on peut supposer quand même qu'il faille le modifier en fonction de certaines circonstances exceptionnelles où on se rend compte qu'on s'est trompé, par exemple, dans certains points fondamentaux. Qui a le droit de l'écrire?
Je n'ai pas la réponse magique à cette question-là. Je n'ai pas réponse à tout. C'est une question très délicate. Je crois qu'il faut être très prudent avec cette question-là et surtout rester loin du fait majoritaire. Donc, je n'ai pas de réponse précise. Hein. Mais en tout cas, certainement pas une simple majorité. Et surtout pas des gens qui n'ont pas une réflexion, une sagesse, une hauteur de vue. Parce que même ceux qui ont réfléchi, qui ont la sagesse, qui ont la hauteur de vue, font des erreurs en faisant du mieux possible. Le hasard, je ne suis pas sûr qu'il soit le meilleur processus pour choisir les personnes qui ont une vision de ce que c'est une constitution, les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux, quand même, ils ont mis du temps à venir. Ils ne sont pas compris de tous. C'est moins qu'on puisse dire. La preuve, c'est que les hauts fonctionnaires et la fonction publique aujourd'hui en est très éloigné, en considérant l'individu finalement comme un enfant qu'il faut chaperonner. Donc voilà, je n'ai pas la réponse, mais soyons très prudents avec la Constitution. L'histoire a montré qu'il y a des moments précis où on peut basculer et tout d'un coup faire évoluer la pensée collective. Tout le monde n'est pas prêt à ça.
D'accord, donc pour le PLD, pour toi, donc la question reste ouverte, mais elle est consciente. Il y a un souci à ce niveau-là. D'accord. Alors maintenant, on va parler plus généralement du libéralisme. Alors effectivement, comme tu disais, les partis traditionnels, sans doute, sont très peu libéraux en France. Quelles sont les grandes idées du libéralisme? Est-ce que tu pourrais en résumer quelques traits importants qui seraient mal défendus par les partis traditionnels?
Alors, le Parti libéral-démocrate ne défend pas la pensée libérale. Je crois que la pensée libérale n'a pas besoin d'un parti pour être représentée. Et la pensée libérale vit par ses intellectuels, ses penseurs et ses experts qui, tout au long des siècles, parce que rappelons-nous que l'école scolastique espagnole, c'est ancien, Donc, ça fait de nombreux siècles que la pensée libérale évolue. Donc un parti politique, encore une fois, n'est pas là pour défendre une pensée, mais là pour défendre un projet politique et changer le quotidien et le pays dans les 5, 10, 15, 20 ans qui viennent. Le projet du Parti libéral démocrate, c'est quelle France voulons-nous dans les 10 ans qui viennent ? Les trois grands axes qu'on a privilégiés, c'est un axe d'abord économique. Aujourd'hui, entreprendre, embaucher, échanger, commercer est devenu presque un vice en France. Or, c'est le commerce, c'est l'échange, c'est l'entreprise, c'est le contrat qui crée de la richesse. Nous avons besoin de revaloriser cet espace d'entreprise, d'échange, de commerce par une fiscalité beaucoup plus simple, beaucoup plus basse, par une bureaucratie beaucoup plus faible, par des réglementations beaucoup plus limitées, par une vraie concurrence ouverte et non pas des corporations et des professions protégées, etc. Ça, c'est l'aspect libéralisme traditionnel économique que tout le monde connaît, souvent mal, parce qu'on entend beaucoup de caricatures. Mais c'est un élément important parce que les pays qui ont mis en œuvre ces règles-là, de la Nouvelle-Zélande au Canada, par époque difficile en général, parce que c'est le moment où il y a une crise qu'on revient aux fondamentaux économiques du libéralisme, ces pays s'en sont très bien sortis. Un deuxième axe très important pour le Parti libéral-démocrate, c'est la société civile. Nous pensons que beaucoup de choix doivent relever de l'ordre social, c'est-à-dire de la société civile d'en bas, des individus, des familles, des réseaux sociaux, des corps intermédiaires légitimes, et donc de ce fameux ordre social spontané qui doit faire les choix sur l'éducation, sur la retraite, sur la santé, et pas l'État, ni des monopoles comme c'est le cas aujourd'hui. Ça veut dire une désétatisation globale de la société pour que la société puisse se réapproprier des choix qui sont des choix fondamentaux. Je ne crois pas que les pays où les familles choisissent l'école de leurs enfants, ça se passe plus mal qu'en France, ça se passe même souvent mieux en termes de résultats, mais aussi en termes de valorisation des enfants, de confiance en soi et finalement d'épanouissement de la société. Moins d'État et plus de société. Et puis le troisième axe qui est fondamental, évidemment, ce sont les libertés individuelles. On voit bien que l'empiètement de l'État sur Internet, sous des prétextes fallacieux, comme Adopi ou d'autres, ou la loi de l'OPSI, de sécurité intérieure, ces empiètements sur Internet sont une vraie menace pour nos libertés. On voit bien que la presse est bridée en France. De plus en plus de perquisitions ont lieu dans les journaux qui révèlent des scoops, Mediapart par exemple. On voit bien que la presse n'a pas le droit d'exposer certains sujets qui sont protégés par le droit. Donc il faut revenir, restaurer des libertés qui nous ont été confisquées année après année. Donc voilà les trois grands axes qui nous paraissent permettre d'arriver à une société beaucoup plus épanouie, beaucoup moins clivée comme on l'a vu sous Nicolas Sarkozy, mais bien avant Sarkozy, parce qu'on met sur Sarkozy beaucoup de plaies, mais ça remonte à bien avant lui. Donc cette fracture sociale que Jacques Chirac dénonçait déjà en son temps, il faut arriver à la cautériser, la soigner, et ça passe par ces différents axes. Liberté individuelle, une société civile beaucoup plus forte et un État beaucoup plus limité, et puis une économie vraiment concurrentielle, ouverte, libre, et pas aujourd'hui presque rackettée par une administration qui est pléthorique.
Alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire, notamment alors sur Adopi, l'OPSI, etc. Alors, tu nous fais peur parce que tu dis qu'il y a des perquisitions chez les médias. Alors, est-ce que Monnaie Libre sera perquisitionné ? C'est possible. Alors, mais tu te rapproches sur ces idées-là. Il semblerait que ces idées-là libérales se rapprochent fortement des idées défendues par le Parti Pirate lui-même. Alors, tu dois te sentir assez proche de beaucoup d'idées du Parti Pirate. Qu'en penses-tu ?
Il y a un parti pirate par pays. Hein. Le parti pirate français est très particulier. J'ai pas de contact avec eux. On a essayé d'établir un contact. On a l'impression d'une grande confusion. Dans l'organisation, parce qu'on n'a pas su qui contacter. Ça a l'air quand même très, plus que spontané, assez chaotique. Deuxièmement, le programme du parti pirate s'est assez rapidement détaché d'Internet pour passer à l'aspect capitalisme. C'est-à-dire que Internet est aussi sous la pression du capitalisme et des grands groupes. Je crois qu'aujourd'hui, le Parti Pirate a besoin de se trouver lui-même avant qu'on commence à se rapprocher de leurs idées, de discuter ensemble. Le Parti Pirate allemand est déjà un peu plus carré. C'est un parti qui progresse bien, qui est plus mature, qui a un projet qui est mieux cerné et qui cherche moins à empiéter sur cet anticapitalisme qu'on retrouve finalement en France, chez les Verts, au Parti Pirate et dans tous les partis un peu innovants ou un peu nouveaux. C'est peut-être le mal français d'ailleurs. C'est ce rejet du capitalisme qui n'est pas forcément infondé, parce que dans ce rejet, instinctivement, il y a des éléments intéressants. Il y a une connivence dans le capitalisme français qui en fait un capitalisme assez malsain, assez fermé sur lui-même, qui doit être amélioré, clarifié. On doit lui porter la transparence, on doit lui porter de la responsabilité et le désétatiser, parce que je reviens à ce terme l'État se mêle beaucoup trop de ces entreprises, d'où ces cercles fermés de hauts fonctionnaires qui vont pantoufler dans les grands groupes et qui créent une connivence dangereuse. Mais en tout cas, le Parti Pirate français, voilà ma conclusion, c'est que le Parti Pirate français ne me semble pas aujourd'hui prêt à occuper une place sur l'échiquier politique parce que son programme n'est pas du tout prêt.
En tout cas, d'après ce que tu viens de dire encore récemment, je pense que il y aura intérêt, sans doute, pas que toi, tout le monde, mais il y aurait intérêt à ce que le Parti libéral invite Étienne Chouard à discuter, parce que je crois que sur beaucoup de points, Étienne se rendrait compte qu'il est libéral finalement.
Et beaucoup de Français sont libéraux. Le mot libéral est mauvais aujourd'hui, personne ne l'aime, mais quand vous posez des questions libérales à ces gens-là sans dire que c'est du libéralisme, ils le sont tous. C'est pour ça que je suis assez confiant sur nos idées. Il ne faut pas le faire d'une manière fermée. Il faut au contraire montrer qu'il y a des débats tout à fait possibles et ouverts avec des personnalités qui ne se déclarent pas libérales, mais qui le sont. Quand vous écoutez Danny Cohn-Bendit, qui est un écolo connu et qui d'ailleurs un agitateur, plus qu'agitateur en ce moment chez les Verts, Danny Cohn-Bendit a des projets sur plan économique, européen ou sociétaux, sur ces questions sociétales, qui est tout à fait proche des libéraux. Donc je crois que la notion libérale est assez large. Simplement, il faut aujourd'hui rassembler ces différentes idées et en faire un projet. Et montrer aux Français que ce projet est pas du tout contraire à ce qu'ils pensent et qu'on retrouve souvent dans la pensée populaire et dans le bon sens français quelque chose qui a une inspiration libérale. D'ailleurs, le libéralisme est quand même né en France, il s'est épanoui en France. S'il n'est pas né complètement, en tout cas, il s'est vraiment épanoui en France. Donc c'est, avant d'être une pensée soi-disant anglo-saxonne, c'est d'abord une pensée française. C'est pour ça que je crois qu'il n'y a pas d'incohérence à voir que les Français sont souvent libéraux dans leur position.
Ah, tu peux citer peut-être quelques grands penseurs français, peut-être pour aider nos lecteurs à chercher qui sont les précurseurs du libéralisme en France.
Turgot, Condorcet, après on a eu Bastiat au 20e siècle, au 19e siècle, on a eu Tocqueville. Plus récemment, on a aujourd'hui Guy Sormand qui est un penseur libéral. On a professeur Garello évidemment qui tient son université d'été en ce moment à Aix. On a Pascal Salin, on a une pléthore d'auteurs libéraux. On a des jeunes, le jeune garde libéral qui ont écrit des livres, Mathieu Laine, Cécile Philippe. Donc voilà, la pensée libérale, elle est ancienne, elle continue, elle est toujours d'actualité. Et il y a de nouvelles pousses qui sont brillantes et qui publient la pensée de cette pensée libérale, qui la renouvelle, qui l'étoffe, qui l'enrichit et qui la fait évoluer. Gaspard Koenig, autre exemple.
D'accord, alors on arrive maintenant au cœur du sujet de Monnaie Libre. Évidemment, on a parlé, on voit bien à chaque fois qu'on parle des sujets, l'argent fait son apparition. On a parlé politique, on a parlé financement des partis politiques. On a parlé de la connivence dans les grandes entreprises, du conflit d'intérêts. On a parlé aussi, même quand on parle d'opilopsie, on arrive à parler tu as parlé d'emprise du capitalisme sur Internet. Alors bon, les gens le perçoivent comme ça. Mais toujours derrière, il y a cette monnaie qui est là. Et on est quand même, depuis 2007, depuis 2008, dans quelque chose d'assez remarquable, qui est le paroxysme d'une crise économique, sociale, et pas qu'en France. On peut pas dire que c'est lié qu'à la France, puisqu'on le voit que c'est quand même, c'est parti des États-Unis, c'est parti de partout. Alors au départ, on a dénoncé les banques, maintenant on dénonce les dettes des États, et on voit bien que quand on analyse le fait sur Internet, l'analyse déjà du système monétaire lui-même, c'est-à-dire comment il marche. Déjà, c'est une grande découverte pour beaucoup de personnes, de comprendre comment finalement banque et banque centrale, banque privée et banque centrale d'un côté, créent cette monnaie qu'on utilise tous les jours. Et on voit apparaître aussi des monnaies libres maintenant, des monnaies en tout cas déconnectées de la monnaie officielle, comme le Bitcoin, on en a parlé dans Monnaie Libre, comme des projets comme Ripple, les systèmes d'échange locaux qui se multiplient, le système en développement OpenUDC, dont on parle ici puisqu'il défend une monnaie à dividende universel. Et tout un tas d'initiatives et une redécouverte finalement de l'économie, comment l'Argentine s'en est sortie de la dette qu'elle avait dans les années 2000 avec une reprise en main de sa monnaie, etc., etc. Alors comment le libéral analyse le problème monétaire, qui est un problème criant aujourd'hui, qui est un vrai problème, peut-être qu'on ne sortira pas de cette crise avant d'avoir résolu ce point fondamental. Comment il analyse ça? Quelle est sa position? Et historiquement, qu'est-ce qu'il a essayé de faire?
La crise que nous subissons aujourd'hui est une crise qui tire ses origines dans la monnaie. Donc c'est une leçon pour beaucoup de citoyens qui s'intéressent à l'économie. C'est que si Alan Greenspan, qui est pourtant un libéral, et qui aurait dû comprendre la leçon monétaire, n'avait pas inondé les banques américaines d'argent pour relancer le crédit, la bulle Internet ne se serait pas transformée en bulle immobilière et la bulle immobilière en bulle des subprimes. Donc clairement, la faute première de la crise, c'est la monnaie. Elle est partagée, cette faute. On va pas dire que la Banque centrale est l'unique fautive. Bon, on peut mettre une responsabilité sur le dos des banques, qui ont été le chaînon de transmission de cette monnaie qui arrivait, qui est la matière première des banques, et qui ont transmis la matière première, qui l'ont transformée et transmise, et qui ont constitué la bulle. Mais encore une fois, c'est leur métier de prendre l'argent de la Banque centrale et d'en faire du crédit. On peut aussi mettre en cause les États, qui ont un rôle très important là-dedans. D'abord parce que les États régulent très durement les banques, et donc les États ont contribué largement, notamment aux États-Unis, à la crise subprime, en obligeant les banques américaines à faire du crédit d'accession sociale à la propriété, qui est l'origine des subprimes. On peut mettre en question les surendettés. Après tout, les entreprises ou les ménages qui se sont surendettés, comme les États, sont responsables de leur endettement. Ceux qui n'ont pas su gérer leur endettement ne sont pas complètement responsables. C'est quand même eux qui ont choisi de s'endetter au-delà de leurs moyens. Donc tout le monde est responsable dans la chaîne. Évidemment qu'on va défendre le faible, c'est-à-dire l'individu et le ménage qui s'est surendetté, par rapport au fort qui, lui, a une meilleure conscience de ses mécanismes. Mais clairement, toute la chaîne est coupable. Après, qu'est-ce qu'on fait ? Un, on analyse les causes de la crise et on se met d'accord sur le fait que la monnaie est un des éléments, la réglementation du crédit peut-être, d'autres éléments doivent être améliorés, affinés, mais en tout cas, la cause première qui est la monnaie est certainement une des réflexions premières aujourd'hui pour les États qui veulent éviter que ce genre de crise se renouvelle trop fréquemment, parce que ça fait quand même la dernière crise de cette ampleur, c'était la crise des années 20, fin des années 20 et années 30, et ça a donné finalement lieu à une crise internationale avec un génocide et des guerres. Donc on sait que les crises monétaires créent des crises économiques dramatiques, des crises économiques donnent des crises sociales dramatiques, et au final on ne sait pas ce que ça donne. L'emballement anti-européen peut aboutir à une explosion de l'Europe, et on sait que quand l'Europe est explosée, et que les choses vont mal, que la crise nous prend tous par le cou, et qu'on est tous étranglés, ça peut déboucher sur des conflits armés. Aujourd'hui, c'est de la science-fiction, mais dans les années 20, on pensait aussi que c'était de la science-fiction. On sortait d'une guerre mondiale, personne ne croyait qu'on allait y replonger, c'est arrivé. Donc il ne faut rien exclure, il faut savoir que une construction économique, commerciale, l'espace européen, ne peut pas se permettre de subir trop, enfin, d'exploser à cause d'une crise monétaire. Donc la grande question aujourd'hui, et pour les États-Unis et pour l'Europe, c'est quelle monnaie nous voulons-nous pour demain ? Aux États-Unis, pour l'instant, la Fed, qui est beaucoup plus soumise que la BCE au pouvoir politique, fait tourner la planche à billets jour et nuit depuis quelques années avec des quantitative easing. Et aujourd'hui, je ne crois pas que l'économie américaine s'améliore nettement à cause de cette politique. Je pense au contraire que son amélioration pourrait être beaucoup plus saine, rapide et forte sans la politique de la Fed qui pourrit la confiance. En Europe, nous devons voir cette réflexion. Un, l'euro, et aujourd'hui personne ne sait trop ce que l'euro va devenir. Est-ce que la Grèce va sortir ? Est-ce que l'Allemagne va sortir de l'euro ? Est-ce que l'euro peut nous amener à la sortie ou non ? Deuxièmement, quelle est la place de la monnaie dans la société ? Car encore une fois, la monnaie, c'est un des éléments du pacte social. La monnaie, c'est un objet, mais un objet particulier qui permet de stocker de la valeur, qui permet de faire des transactions, et qui donne donc de l'information, car la transaction fixe la vraie valeur des choses. La valeur étant assez individualisée. Il y a peu de biens qui ont une valeur universelle. Bon, mais ça, c'est un autre débat. Je ne suis pas économiste, on va rester sur le plan social, du pacte social. Donc, cette monnaie-là, qu'est-ce qu'on veut en faire ? Au Parti libéral-démocrate, nous pensons, un, qu'il faut desserrer le monopole de la monnaie et donc permettre aux entreprises, aux individus, de faire le choix de monnaie alternative sans être contraint par le monopole de l'euro. Ça veut dire aussi une transparence, parce que la question de la monnaie, c'est aussi la question des transactions, c'est la question donc de la fiscalité. Le Parti libéral-démocrate reconnaît à l'État ses missions régaliennes, et donc la nécessité de les financer. Il faut que des monnaies concurrentes de l'euro, si demain elles devaient avoir naître et se diffuser, répondent aux mêmes obligations que l'euro, c'est-à-dire une déclaration pour la TVA, pour les charges sociales, pour les impôts. Ce qui n'empêche pas de lutter pour les réduire, ces impôts et ces charges sociales et cette TVA. Mais en tout cas, il faut que l'aspect déclaratif, de transparence et donc d'obligations légales soit respecté par ces monnaies. Mais à partir de là, la monnaie est encore une fois un élément du pacte social, c'est-à-dire que la monnaie doit inspirer confiance à ses acteurs, à ceux qui l'utilisent. Ça veut dire que si demain une monnaie vient concurrencer l'euro, ou plusieurs monnaies, elles occuperont éventuellement des niches sur des transactions particulières. Elles prendront de l'ampleur éventuellement si les institutions qui les suivent, qui les gèrent, qui les cadrent, inspirent confiance. Laissons le marché gérer cette confiance-là et cette diffusion-là. Il y a un autre élément que nous voulons favoriser, c'est la transaction sur les métaux précieux. Le métal précieux peut faire l'objet de spéculations. Alors, qu'est-ce que la spéculation ? Vaste débat. Mais on va dire que des gens stockent de l'or juste parce qu'ils ont peur de la monnaie, ils n'ont pas toujours tort. Est-il normal que l'État ponctionne une taxe extrêmement élevée, je crois qu'on parle de 8-10%, sur l'achat d'or ? Il me semble que l'achat d'or devrait être totalement libre de droit et que ce soit que l'or soit un bien comme les autres, c'est-à-dire un bien qu'on puisse acheter et stocker chez soi comme une valeur alternative à la monnaie. Ça peut coûter cher. Quand l'or décroît, ceux qui ont stocké en espérant conserver leur valeur se trouvent pris à la gorge. Encore une fois, quand les crises que nous connaissons aujourd'hui sont les crises de bulles monétaires, qu'est-ce qui se passe quand une bulle monétaire explose ? Toute la courbe des prix s'est déjà déformée à cause de la bulle. Hein. Qu'est-ce qu'une bulle ? C'est la déformation de l'équilibre des prix. Tout d'un coup, il y a un prix dans un secteur qui va décrocher du reste. Et donc le rapport, parce que tous les prix sont relatifs les uns aux autres, l'information du prix, c'est bien une relativité d'un bien ou d'un service par rapport à un autre. Tout d'un coup, il y a un bien ou un service qui va exploser par rapport aux autres. Personne ne sait pourquoi. L'immobilier, par exemple, c'est un stockage de valeur qui paie que quand les choses vont mal, en général, on achète un appartement, on achète des bureaux et on stocke son argent dans des biens qui, la fameuse pierre, qui rassure. Donc on a une bulle de la pierre qui est excessivement plus rapide parce que l'inflation est forte. La création de monnaie est forte. Donc cette distorsion, quand elle explose, elle se défait dans le désordre. Et donc on a un chaos très brutal où tous les prix sont désorganisés. Or vous, quand vous faites vos courses pour acheter la nourriture, pour acheter une voiture, pour acheter un bien immobilier, pour voyager, pour vous équiper, vous avez besoin de cette information. Si l'information n'a plus de sens et qu'elle bouge trop vite et qu'elle se déforme, vous perdez la confiance dans l'information. Et donc la confiance dans l'information disparaissant, vous n'investissez plus, vous n'épargnez plus, vous ne faites plus d'efforts. Et vous êtes amené à être dans le court terme. Or, une société doit se projeter dans le long terme pour pouvoir avancer. Donc, quand une bulle explose, d'abord se constitue, puis explose, vous perdez tous ces éléments de confiance du pacte social et vous incitez les gens à vivre au jour le jour. C'est extrêmement nuisible pour une société. Voilà pourquoi il faut, je crois, libérer les métaux précieux de leur taxe qui est aujourd'hui confiscatoire et bloquante pour stocker de la valeur. Il faut permettre à d'autres monnaies d'évoluer. Après, laissons encore une fois faire le marché. Les gens choisiront.
Mais quelle analyse ! J'ai presque envie de dire, j'ai l'impression d'écouter la théorie relative de la monnaie dans, dans tout ce que tu as dit. Alors peut-être un autre aspect, pour la diversité monétaire, pour l'initiative sur les monnaies, c'est très bien. Tu as très bien expliqué effectivement comment les bulles se formaient. Alors y a, bien sûr, les banques aussi ont un rôle dessus parce que, alors tu as dit, bien sûr, les banques parfois sont soumises au dictat politique pour dire qu'il faut investir là ou là, et puis du coup ils sont obligés un peu de le faire. Donc ça crée une bulle, parce que quand on achète des actifs, en quelque sorte on fait monter ses prix, puisqu'on crée une demande qui est artificiellement orientée. Alors est-ce que les banques aussi jouent pas un rôle fondamental dans le fait que c'est elles, et donc un centre de décision, ça n'est, donc la monnaie n'est pas décentralisée de ce point de vue, ce centre de décision qui déverse arbitrairement de la monnaie, et puis va favoriser tel ou tel groupe d'individus au détriment des autres, qui eux n'auront pas droit au crédit pour des raisons qui sont... que le banquier lui-même estime que ce qu'ils produisent, eux, ben ça, c'est pas de la valeur, alors qu'en fait, ça peut très bien en être. Comme tu l'as dit, la valeur est relative aux individus qui l'estiment.
C'est très compliqué parce qu'on est sur un secteur économique très particulier. Lorsque l'État français a dit aux banques françaises « gardez la dette grecque parce que c'est une dette publique et que la Grèce fait partie de l'euro et nous garantissons que l'euro et la Grèce seront maintenus » et que tout d'un coup on impose aux banques françaises et à tous les acteurs d'ailleurs qui avaient de la dette grecque de perdre trois quarts de la valeur de la dette, clairement, l'État français n'a pas joué son rôle. Il aurait dû laisser les banques gérer leur portefeuille de risque convenablement. Je rappelle qu'une banque, ce sont des salariés, des clients, des actionnaires, et tous ces gens-là n'ont pas intérêt à perdre de l'argent et à menacer leur modèle. Donc une banque, a priori, doit gérer ses risques elle-même. On se rend compte là-dessus que, un, il y a des incitations fiscales, réglementaires, de fonds propres, Bâle 2, bientôt Bâle 3, Solvency 2 pour les assurances, qui incitent très fortement et les banques ou les assurances pour Solvency et les acteurs qui s'endettent à faire des choix plutôt que d'autres sur des motifs qui ne soient des motifs libres de réglementation de fiscalité, mais justement en grande partie orientés par la fiscalité. Il est clair par exemple que les fonds propres aujourd'hui sont beaucoup plus fiscalisés que la dette. Qu'est-ce qui se passe ? Des entreprises ont intérêt à se surendetter plutôt qu'à avoir des fonds propres importants parce que la dette est moins fiscalisée. Alors toutes ces orientations, les réglementations qui ont obligé les banques américaines à faire des subprimes, à Après, les subprimes se sont envolés, mais il y avait tout un mécanisme public qui forçait au départ et puis ensuite incitait à aller plus loin les banques américaines. Donc ça, ce sont des incitations qui sont nuisibles parce qu'elles faussent, encore une fois, la libre information. Le deuxième impact qu'on a vu pendant la crise aux États-Unis, c'est que les banques sont devenues très grosses et dangereuses en cas de faillite. Or, il est fondamental dans le capitalisme qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, bancaire ou non, puisse faire faillite. Comment pouvons-nous permettre à une banque qui fait des erreurs, malgré les incitations, parce qu'elle doit les gérer ces incitations, malgré ces incitations, si elle mène une stratégie désastreuse et qu'à la fin elle est amenée à la faillite, comment fait-on pour que le système ne s'effondre pas ? Les citoyens n'ont pas envie que leur épargne soit disparaisse et s'envole. Alors il y a des garanties, des sécurités. Aujourd'hui, l'assurance des épargnants, par exemple, est publique. Est-ce qu'il n'y a pas des assurances complémentaires à envisager privées ? Deuxièmement, est-ce que les banques, c'est la grande réflexion américaine et la réglementation Dodd-Frank, je ne sais pas si elle est bien fondée, mais en tout cas, les Américains se posent la question depuis les années 30. Est-ce qu'on doit séparer les banques d'investissement des banques de détail ? Est-ce que vraiment il y a une différence ? D'ailleurs, c'est un grand débat. Moi, je ne le crois pas à titre personnel. Mais en tout cas, la notion de fonds propres et de responsabilité de l'actionnariat est fondamentale. Il faut que l'actionnariat sache qu'il peut tout perdre et qu'il soit beaucoup plus responsable de l'usage de ses fonds propres et donc de l'activité de sa banque que c'est le cas aujourd'hui. Alors c'est plus une question pour moi de gouvernance et de réglementation sur les fonds propres que de séparation de métier ou de cadre. Donc voilà, la réponse à cette question-là n'est pas simple. Les États-Unis et l'Europe n'ont pas la même approche. L'Angleterre, qui a payé très chèrement ses réglementations et son univers bancaire, l'Irlande, l'Espagne aujourd'hui, paye très chèrement les conséquences d'une banque qui a fait des erreurs. Banques publiques parfois, enfin ou semi-publiques, comme c'est le cas des banques espagnoles de région qui ont investi dans l'immobilier massivement sans aucun raisonnement économique. Donc la réflexion, elle dépasse très largement le Parti libéral-démocrate. On n'a pas la réponse à cette question-là, mais le débat, c'est clairement la responsabilité des banques face à une faillite. Il faut qu'elles puissent faire une vraie faillite, ou en tout cas que la transition vers la liquidation soit le plus garante que le système ne s'effondre pas. Comment assure-t-on une transition d'une banque qui doit être liquidée ? Et puis ensuite, quelles sont les incitations qui aujourd'hui pourrissent le métier bancaire et derrière les clients des banques ? Parce que les banques aillent bien ou mal, c'est aussi grave que le fait que leurs clients aillent bien ou mal. Ce qui est important à la fin, c'est que le client puisse faire un choix rationnel, en connaissance de cause, et sans une conclusion faussée par des mauvaises incitations.
D'accord, alors... Dernier point peut-être pour conclure. Alors dans le design, parce qu'on va forcément parler un peu de théorie relative de la monnaie aussi, parce que c'est aussi le cœur des monnaies libres, de certains designs de certaines monnaies libres, et je voulais en parler parce que c'est l'aspect temporel. Parce que quand on parle de toute cette refondation, de tous ces problèmes qu'il faudrait régler pour éviter de nouvelles crises et résoudre les problèmes, eh bien, il y a des entreprises qui, elles, ont fait faillite. Il y a des gens qui ont fait faillite, il y a des ménages qui ont fait faillite, etc. Donc, pendant ce temps-là, les banques, elles, n'ont pas fait faillite. Elles ont été renflouées. Les États aussi s'auto-renflouent avec les banques centrales aujourd'hui. Donc, pendant que des acteurs, eux, ont eu le droit de faire faillite, d'autres ne l'ont pas. Comment, sur cette base-là, on peut espérer pouvoir repartir comme si c'était rien passé ?
Alors d'abord, au niveau de la Banque centrale, il est important aujourd'hui qu'on ait un discours très ferme vis-à-vis de la BCE. Déjà, la BCE a été plutôt laxiste ces dernières années. Depuis l'origine, moins que la Federal Reserve Bank américaine, heureusement. Je crois qu'il est important de maintenir ce discours de fermeté vis-à-vis de la BCE, voire même encore plus ferme, pour exiger que la BCE ne fasse pas de monnaie. Que la BCE ait une action sur le marché de la dette, c'est déjà extrêmement limite, mais qu'elle crée en plus de la monnaie, c'est juste intolérable, et il faut qu'on soit très ferme sur ce principe-là. La Banque centrale ne doit pas faire augmenter la masse de monnaie de manière, d'ailleurs, tout court, mais puisqu'elle le fait chaque année, en tout cas de manière déraisonnable, et qu'elle garde comme objectif d'une masse monétaire relativement stable. Contrairement à la Federal Reserve Bank, qui, elle, fait exploser son bilan et la masse de monnaie qui circule. La deuxième chose, c'est que au niveau des banques, il faut encore une fois qu'on puisse qu'on puisse laisser les banques faire faillite si elles ont fait des mauvais choix stratégiques et qu'elles sont amenées à la faillite. Comment ? Il y a la question des créanciers qui doit être traitée. Est-ce qu'on doit convertir des créances juniors
Oui, mais par rapport à ceux qui ont fait faillite, on leur dit quoi ? Parce que c'est le problème, c'est que si on change les règles, ça va être très bien pour la suite. Mais qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de ceux qui avec légitimité, vont dire « Attendez, nous, on nous a fait faire faillite, en quelque sorte. On nous a pas renfloué. Les ménages ont perdu leur maison. Mais les banques, les États... » Non. Alors, est-ce qu'on peut repartir comme ça sans équilibrer le jeu ?
Je parle de, enfin, si on reprend cas par cas, d'abord la faillite, encore une fois, faillite d'entreprise n'est pas que monétaire. Une faillite d'entreprise, c'est aussi un modèle qui est inadapté ou qui est mal mis en œuvre. Donc il y a d'autres causes que la monnaie dans une faillite d'entreprise. La faillite des ménages, d'abord il y a des commissions de surendettement qui se mettent en place, donc la faillite des ménages s'accompagne d'un accompagnement, enfin s'accompagne donc d'une aide et d'un processus pour retrouver une vie normale une fois débarrassé de sa dette et parfois donc de ses actifs pour rembourser une partie de la dette. Mais ça, encore une fois, quand un ménage se surendette, il s'expose à des risques. C'est pour ça que je suis assez... négatif vis-à-vis de l'incitation fiscale à s'endetter. Je pense que la dette est un mécanisme à la fois important mais dangereux. Il ne faut pas en abuser. Ça veut dire que tout ce qui privilégie la dette par rapport aux fonds propres pour les entreprises, par exemple, me paraît dangereux. Je reviens sur ce point. La deuxième chose, c'est que l'encadrement du crédit pour les particuliers me semble pas inutile. Je sais qu'un libéral ne doit pas aimer les réglementations et qu'en termes de monnaie, il y a beaucoup de choses à faire et à nettoyer. Mais je crois qu'une des forces de la France sur ce plan-là, c'est que les ménages, même si ça n'empêche pas les faillites de ménages, mais sur le plan du crédit immobilier, par exemple, les ménages n'ont pas le droit de s'endetter plus qu'un certain ratio de leurs revenus. C'est une sécurité. On peut réfléchir, c'est un débat, on peut l'ouvrir, on peut réfléchir à l'affiner, à le faire évoluer, mais l'idée qu'un ménage ne puisse pas faire n'importe quoi en termes de crédit et d'endettement me paraît une bonne chose.
D'accord, bon, tu réponds pas vraiment donc à la justice en quelque sorte, non, entre ceux qui ont le droit de faire faillite et ceux qui n'ont pas le droit.
Ceux qui ont le droit de faire faillite font faillite, c'est dramatique pour eux, je suis triste pour eux, mais la faillite fait partie du système capitaliste et même de l'humanité bien avant le capitalisme. Ce qui est important, c'est qu'après la faillite, on puisse rebondir et repartir. Donc il faut tout faire pour que ces gens puissent repartir sur un bon pied et pas se laisser enliser dans cette faillite. La deuxième chose, c'est ceux qui n'ont pas fait faillite, par exemple les banques, mais je crois que les banques françaises ne sont pas concernées parce que les banques françaises sont justement celles qui ont mieux traversé la crise et qui ont plutôt aujourd'hui rapporté de l'argent net à l'État français que coûté. Et on parle de plusieurs milliards d'euros. Mais les banques américaines ou les banques anglaises qui ont fait faillite, qui ont été nationalisées, il y a une vraie question qui se pose. Prenons un exemple. RBS a été nationalisé par l'État anglais. Est-ce qu'il faut punir les salariés actuels les plus rentables de RBS en leur interdisant d'avoir des bonus, par exemple ? On peut le comprendre d'un point de vue électoral. Moi, électeur qui, en tant que contribuable, finance RBS, ai-je envie que des grands banquiers de RBS soient très bien payés ? Non. Mais en même temps, si on veut que RBS se renfloue, récupère des fonds propres et puisse rembourser un jour l'État anglais, il faut bien des talents. Et les talents, c'est comme le genre de foot. Ils vont là où il y a de l'argent et là où il y a un bon cadre, une dynamique et une stratégie. Donc, la question n'est pas simple. Moi, je encore une fois, celui qui s'engage à dire « je vais interdire tous les revenus importants et tous les bonus à des banquiers d'une banque qui est nationalisée », je lui dis « autant la liquider tout de suite, cette banque, et donc vous encaissez votre paume. Si vous voulez que la banque s'améliore, retrouve des couleurs et redevienne une banque rentable et rembourse l'État et le contribuable, il faut lui donner les moyens de mener une stratégie. » Donc, ce n'est pas simple. Voilà. Et je n'ai pas la réponse, encore une fois, à cette question. Ça fait beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas réponse, mais je crois que personne n'en a. Il faut surtout être prudent. Il faut surtout être prudent et avancer d'une manière assez intelligente au cas par cas. C'est-à-dire qu'il y a des cas où des banques doivent vraiment fermer parce que le modèle de la banque est terminé. Céder ses actifs à d'autres banques, protéger ses créanciers, mais surtout la fermer. Et puis il y a des cas où les banques sont sauvables. Alors le marché devrait décider, c'est vrai que le marché peut décider. On a vu un groupe anglais, Barclays pour ne pas le citer, qui a fait appel au Qatar au moment de la crise. Et le Qatar a investi des capitaux dans les fonds propres de Barclays. Donc on peut faire appel à des fonds souverains étrangers, on peut faire appel à des fonds privés étrangers. On n'est pas obligé de nationaliser immédiatement. On se rend compte qu'il y a des banques qui sont reprenables par d'autres banques à un prix bradé, mais c'est le principe d'une crise, hein, c'est le principe d'une mauvaise gestion. L'actionnaire est spolié, mais il n'est pas spolié puisque c'est lui-même qui a été un mauvais gestionnaire, un mauvais actionnaire. L'actionnaire est, rappelons-le, responsable de l'entreprise dont il est actionnaire. Donc les mécanismes, pour moi, la priorité, c'est de réfléchir aux mécanismes futurs. Le passé, c'est tellement compliqué de démêler la pelote. Ceux qui ont fait faillite, malheureusement, ça fait partie du schéma. Ceux qui n'ont pas fait faillite ont été pas mal punis jusqu'à maintenant, peut-être insuffisamment, mais pas mal. La question, c'est comment on évite ça à l'avenir et comment on trouve une nouvelle justice et un nouvel équilibre.
D'accord, donc justement, ça nous amène au point temporel et après on conclura sur ton avis sur quelques monnaies libres. Point temporel, on a chaque année évidemment des hommes qui meurent et des hommes qui arrivent. Et notamment les hommes de 20 ans aujourd'hui ou de 30 ans même on peut dire, ne sont pas vraiment, on ne peut pas les considérer comme responsables des choix à la fois monétaires, sociaux, économiques, enfin tous les choix qu'on peut imaginer, qu'ont fait leurs prédécesseurs, qui eux sans doute d'ailleurs sont morts. Donc ils n'ont même plus de compte à rendre.
Ils sont encore vivants.
Oui, mais on peut toujours étaler le temps encore plus si on veut pour qu'ils soient vraiment morts. Donc est-ce que les nouveaux entrants, je les appelle comme ça, les nouveaux hommes en fait, ceux qui arrivent, ceux qui ont 20 ans cette année, et ceux qui auront 20 ans dans 5 ans, ceux qui auront 20 ans dans 10 ans, comment ils se placent dans ce contexte-là? Est-ce que c'est normal, par exemple, aujourd'hui, de voir dire les Grecs, ceci, cela, alors que les Grecs qui ont moins de 30 ans, ils sont en rien responsables de ce qu'ont fait les Grecs d'il y a 15 ans, ils n'étaient pas majeurs, donc, etc. Donc il n'y a pas les Grecs, en quelque sorte, puisque chaque année, les Grecs ne sont pas les mêmes Grecs. Donc on ne peut pas dire les Grecs. Il y a une erreur de logique à dire les Grecs, quelque part, à dire les Grecs sont responsables de leur choix, puisque c'est pas les Grecs d'aujourd'hui ne sont pas les Grecs d'il y a 10 ans. Et on voit aussi cet aspect se manifester aujourd'hui, à la fois aux États-Unis, en France, en Europe, sous le fait que, aujourd'hui, comme jamais auparavant dans le passé, les jeunes se retrouvent obligés de s'endetter pour poursuivre leurs études, alors que leurs prédécesseurs n'ont pas eu à faire ce choix. Donc où est la symétrie? Parce que la symétrie, je crois, c'est un des facteurs essentiels du libéralisme, c'est de considérer que chaque individu doit avoir, doit être dans une relation symétrique par rapport à ses semblables, par rapport à autrui. Il ne doit pas y avoir de distinguo. Alors, bien sûr, là, c'est pas une question de loi au sens traditionnel du terme. Il y a un aspect ici de relation dans le temps entre les individus. C'est plus délicat à approcher, mais comment dans l'idée libérale, cet aspect-là est pris en compte? Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, les jeunes qui arrivent sont dans des conditions extrêmement plus drastiques que leurs prédécesseurs? Est-ce qu'il n'y a pas un bug quelque part là qu'il devrait falloir régler?
Plutôt que symétrie, je préfère le terme d'égalité en droit. Nous avons tous les mêmes droits, mais pas tous la même situation. L'humanité, les pays, les patries, les frontières engendrent des héritages. Quand on est français, on a un héritage historique, patrimoine, culturel et financier, réglementaire aussi, fiscal. Donc, quand vous naissez dans une famille, vous naissez dans un pays, vous devez accepter l'héritage. L'héritage des Grecs n'est pas facile à porter, l'héritage des Français non plus. Arriver à 20 ans aujourd'hui en France, devoir mener ses études, payer pour ses études et porter la dette de ses aînés qui sont encore là, parce que je vous signale que ceux qui ont voté toutes ces dettes pendant 30 ou 40 ans, ils sont encore au Parlement, pour beaucoup d'entre eux ou au Sénat, voire pour ceux qui ne sont pas morts en activité, encore en vie. Hein. Dieu merci, l'espérance de vie augmente, mais l'inconvénient c'est que les coupables sont encore là. C'est quand même plus compliqué à gérer que s'ils avaient disparu, parce que on a envie de leur faire porter les clous au pilori, de leur faire porter leur erreur, leur faute. Plus qu'une erreur, une faute. Il faut porter l'héritage. Le principe de l'héritage, de la transmission, c'est qu'on transmet le patrimoine, les actifs, la culture, on transmet aussi les dettes, les réglementations, la situation, le contexte. Il y a des moyens de le fuir. Beaucoup de Français choisissent de s'expatrier, des actifs, des étudiants aussi. Ça veut dire qu'on fuit un héritage. Alors, je suis un peu cynique, parce que beaucoup d'expatriés partent pour l'aventure, pour des nouveaux horizons, pour ouvrir les possibles. On sait que la France est une société très fermée, très cloisonnée, et des jeunes voient bien qu'au Canada, en Angleterre, en Allemagne, il n'y a pas ces cloisons, qu'on trouve plus facilement un emploi, que le fait qu'on soit noir, jaune, blanc, qu'on ait fait un CAP de cuisine ou X, on a des horizons ouverts. Alors qu'en France, si on a fait X, a priori, on a plus d'horizons que si on a fait un CAP cuisine. Ce qui est assez incompréhensible, parce que c'est bien un domaine où il y a de la demande, c'est bien la cuisine. Mais bon, ceux qui font de l'hôtellerie ou des études un peu techniques souffrent beaucoup en France. Donc partir, c'est aussi découvrir de nouveaux horizons et découvrir une nouvelle culture. Mais en tout cas, pour ceux qui restent en France, il y a un héritage à assumer, on ne peut pas le nier, on ne peut pas le refuser. On peut par contre exiger de prendre une partie de la décision en main et de dire « nous payons, nous décidons ». Ces jeunes, pour décider, déjà faut-il qu'ils votent. On se rend compte qu'aujourd'hui, les personnes qui votent le plus, ce sont les personnes âgées, c'est-à-dire celles qui ont voté pendant des décennies pour cette dette. Donc il faut que les jeunes se saisissent du sujet, prennent conscience de leur responsabilité dans une démocratie et s'engagent d'abord par le vote, ensuite par l'activisme politique. On sait que la politique en France, c'est sale, les gens n'aiment pas ça. Mais je suis désolé, si on veut remédier à cette question-là et attaquer la question de la dette et des libertés et de la société qu'on veut dessiner, il faut s'engager. Et s'engager, ça veut dire faire des compromis, parce qu'aucun parti ne répond complètement à la vision qu'on a soi-même, à titre personnel, complètement réfléchie dans son coin. Ça veut dire travailler collectivement, ça veut dire participer à un ordre social, et ça veut dire coopérer, et ça veut dire tendre la main à d'autres personnes et travailler ensemble. Les Français ayant été extrêmement endommagés dans leur confiance en eux, dans leur vie sociale, par l'impact de l'État omniprésent, par l'espèce de l'État nounou qui infantilise les Français, que les citoyens ont du mal à se voir, à se projeter dans la collectivité. Mais il est important pour l'action politique que les Français retrouvent ce sens de la coopération pour l'action politique. C'est l'orientation du Parti libéral-démocrate, c'est notre engagement, c'est d'être dans une action collective pour faire peser un projet sur l'échiquier politique, en débattre, le faire avancer dans l'esprit des Français et à la fin gagner. Donc étape par étape, nous avons besoin que des gens nous rejoignent, adhèrent et participent au projet. Ils ne seront pas d'accord à 100% sur nos projets parce que chacun a ses préférences, mais globalement, ceux qui se retrouvent dans les idées libérales doivent venir chez nous et s'engager. Ceux qui ne s'engagent pas en démocratie ne pourront pas se plaindre dans 10 ans que les choses n'ont pas bougé. Parce que celui qui a 20 ans aujourd'hui, qui ne s'engage pas et qui dans 10 ans se plaindra encore en disant « je dois payer la dette de mes aînés », je pourrais lui répondre, et d'ailleurs la société française lui répondra dans son ensemble, ça fait 10 ans que vous vous plaignez, qu'avez-vous fait ? Donc cette notion de responsabilité, elle doit être aussi admise et acquise par les citoyens.
D'accord, mais alors, comme tu viens de le dire très bien, tu viens de dire qu'effectivement, si on est français, si on est grec, on hérite d'un certain patrimoine, des dettes, mais alors pourquoi ? À l'instar d'un héritier d'une fortune ou d'un patrimoine quelconque, pourquoi il n'y a pas aussi... Il n'y a pas dans ce patrimoine, dans cet héritage, une part de dividendes monétaires. Pourquoi c'est toujours estimé uniquement en nature ? Alors le droit à l'éducation, bien sûr, le droit de vaquer à ses occupations. Mais pourquoi il n'y aurait pas une part de dividendes monétaires dans cette transmission qui permette à chacun de tenir une part de ce patrimoine pendant sa vie et que ce dividende monétaire fasse partie finalement de la base monétaire utile pour les échanges entre les citoyens ? Pourquoi pas ?
D'abord, tous les enfants qui sont français bénéficient de la santé, de l'accès aux soins, ils bénéficient de l'éducation. Si imparfaite soit-elle,
mais en tout cas... ça ne laisse pas le choix, c'est pas libéral ça, c'est en nature. Donc c'est en monétaire et ça leur permettrait de faire le choix.
Tout à fait, c'est pour ça que nous défendons le chèque éducation par exemple, qui permet aux familles de choisir pour leurs enfants l'école qui répond le mieux à leurs préoccupations, à leurs attentes et à leurs priorités.
Mais le chèque éducation c'est encore moins libre que de la monnaie qui permet de choisir vraiment quoi faire avec. Pourquoi l'éducation ? Pourquoi diriger ? C'est créer une bulle sur l'éducation finalement.
Alors ça c'est très révolutionnaire de vouloir donner un pactole monétaire en disant tout est payant et au juste prix, quel est juste, enfin, en rendant au marché l'éducation et tous les services aujourd'hui publics et en disant aux Français à la naissance vous bénéficiez de tel pactole et ensuite vous gérez vous-même votre pactole. D'ailleurs, la question se pose, qui gère le pactole pour les mineurs ? Donc ce sont les parents.
On peut considérer que quand on devient majeur, on bénéficie d'un petit capital de départ et qu'après on touche toujours le dividende. Alors il doit être faible bien sûr parce qu'il doit représenter la part qu'on transmet à chaque citoyen, mais c'est lui au moins qui choisit pourquoi diriger ses choix.
Bon, pour l'instant, le débat qui s'est développé au Parti libéral-démocrate s'est arrêté au fait que les familles doivent pouvoir choisir l'éducation de leurs enfants, choisir leur assurance santé librement, et donc l'abandon des monopoles actuels, en maintenant un financement universel par l'impôt de ces services. Voilà l'état du programme du Parti libéral-démocrate. Donc rendre à la liberté aux familles de choisir leur couverture et l'éducation de leurs enfants. En revanche, c'est vrai qu'on reste dans un schéma où l'éducation reste obligatoire, où la couverture santé est universelle. Après, il s'agit d'ouvrir ces monopoles à des concurrents et à des nouveaux acteurs.
Ça veut dire que le dividende universel est encore plus libéral que les libéraux ?
Peut-être, c'est trop révolutionnaire pour un parti politique. Encore une fois, la pensée libérale, c'est pas l'action politique. On n'est pas un think tank, on doit rester dans une approche assez réaliste et assez concrète pour une transition vers une prochaine étape. Peut-être que le monopole, le dividende universel ou le dividende monétaire fait partie d'une étape plus éloignée qui ne rentre pas dans un projet d'un parti qui se projette dans des élections proches, mais plus dans une réflexion de think tank, dans l'idée que petit à petit on arrivera à cette étape finale ou en tout cas semi-finale, mais qui à mon avis qui est très ambitieuse et qui ne rentre pas dans un projet d'un parti comme le nôtre.
D'accord, très bien, très bonne réponse. dernier point pour conclure, alors ton avis personnel peut-être plus, parce que je pense que le Parti libéral, tu l'as dit tout à l'heure, était d'accord pour qu'il y ait des alternatives monétaires au sens large, mais toi ton avis sur les monnaies qui apparaissent, alors il y a le Bitcoin qui est sans doute le plus connu parce que qui a le succès le plus important, le plus rapide pour l'instant en tout cas. Il y a d'autres projets en développement, je ne sais pas si tu les connais, il y a Ripple, il y a OpenUDC, et puis il y a les systèmes d'échange locaux, mais plutôt sur les monnaies internet et notamment Bitcoin.
Oh, j'ai pas d'avis particulier, je trouve ces initiatives formidables, elles sont intéressantes. Il y en a qui vont tomber parce qu'elles n'inspireront pas confiance, que le marché ne sera pas là pour elles, d'autres marcheront. Donc moi encore une fois, contrairement à beaucoup de politiques qui veulent choisir, sélectionner et donner leur préférence à des monnaies par rapport à d'autres, moi je dis, je laisse faire et voyons ce qui restera dans 10 ans et voyons comment les usagers de ces monnaies ont confiance ou non. En revanche, ce que j'aimerais que les pouvoirs publics fassent, c'est que le champ d'action, le champ de développement de ces monnaies soit relativement transparent et ouvert pour que ces monnaies puissent s'implanter durablement et puis répondre à une attente ou pas. Après, encore une fois, la question, c'est la fiscalité, c'est la transparence, c'est la déclaration, c'est le contrôle des transactions, parce qu'encore une fois, il y a des réglementations, et comme tu disais tout à l'heure, l'égalité de tous, c'est aussi devant l'impôt. C'est-à-dire qu'il faut que ces monnaies passent par les mêmes obligations que l'euro, ou le dollar, ou l'yen. Mais à part ça, longue vie à ces monnaies, et good luck.
Donc ça veut dire aussi que finalement, de ce point de vue-là, que le système monétaire dans lequel on vit, c'est pas forcément le seul possible, que si ces monnaies réussissent ou s'il y en a certaines qui s'avèrent extrêmement efficaces, pourquoi pas que le système monétaire même officiel bascule vers un autre type de fondement.
La monnaie a toujours relevé d'une autorité plutôt d'État. La monnaie a toujours été sous l'autorité du prince. Aujourd'hui, on a réussi, ce qui me paraît une grande étape, à décrocher la monnaie de l'autorité politique. Ça me paraît fondamental. Il faut que les banques centrales, tant qu'elles existent, et moi j'avoue que pour l'instant on reste dans une perspective de banque centrale, soit indépendante de l'État, parce que l'État a tendance à vouloir de l'inflation, de la création de masse monétaire, pour financer évidemment la dette publique. Il faut que la banque centrale soit indépendante avec des objectifs très fermes, et c'est ce que j'aimerais pour la BCE demain. Parallèlement à ces banques centrales qui sont déconnectées des pouvoirs publics, pourquoi ne pas avoir des systèmes, des organisations monétaires qui sont indépendantes et de l'État et de la banque centrale et qui créent des réseaux de paiement. Donc oui, on peut voir évoluer ces monnaies si elles prennent de l'ampleur et que les consommateurs de cette monnaie se rendent compte des avantages qu'ils ont à travailler avec elle et que l'État se rend compte que finalement la vie continue. Eh bien, l'ordre social aura fait évoluer la monnaie. Et comme libéral, je suis toujours très intéressé de voir ce que l'ordre social fait évoluer dans la société.
Bah, excellente conclusion, tout à fait dans la lignée éditoriale de Monnaie Libre. Merci Aurélien Véron, on rappelle, président du Parti Libéral Démocrate. À bientôt Aurélien.
À bientôt Stéphane.
Au revoir. Eh bien, je vous laisse avec le générique de Monnaie Libre, No More Dreams, The Nighter. Au revoir, à bientôt.